Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On va les avoir, des opportunités on en aura. Continuez à les faire douter. Et on garde la tête haute, quoi qu'il arrive. Comme des grands garçons, comme des bonhommes.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Sofiane Zouaoui de Winamax FC, Walid Acharchour et notre invité ce soir, Julien Stéphane, est avec nous jusqu'à 22h. Dans un instant, vous allez réagir à l'attaque frontale de Walid Acharchour.
Non, pas du tout. On est dans une discussion intéressante.
Je plaisante, Walid. D'abord les directs. Commençons par l'événement foot de la soirée, bien sûr la finale de Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et West Ham. Bonsoir Aurélien Tiersin.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Et c'est parti fort, 0-0 après 3 minutes de jeu, mais il y avait déjà deux frappes après 40 secondes. Là c'est Nico Gonzalez qui va se faire rattraper par Declan Rice, le capitaine de West Ham, le joueur de la Fio qui va rester écroulé dans la surface de réparation. Il y a du rythme en tous les cas à l'Eden Arena. Ça se passe en République Tchèque. 0-0. C'est Vladimir Smisser, l'ancien Lensois, l'ancien Bordelais, qui est venu apporter le trophée avant le début de match. Je vais pas faire toutes les équipes titulaires, mais rapidement, Sofiane Amrabat, le Marocain titulaire du côté de la Fiorentina. La surprise, c'est Arthur Cabral, le buteur brésilien sur le banc. Luka Jovic, l'ancien du Real, est en pointe. Et du côté de West Ham, il y a beaucoup d'anciens de Ligue 1. Areola dans les cages, Aguerd et Zuma en défense centrale. Emerson, lyonnais, quelques mois, et titulaire latéral gauche. Lucas Paqueta, l'ancien lyonnais, lui aussi, titulaire en tant que meneur de jeu, sans oublier l'Algérien Saïd Benrahma, ailier gauche. 0-0, 4 minutes.
Il connaît là ou pas côté Fiorentina?
Il est sur le banc. Sur le banc, Jonathan. Il connaît. C'est Christian Kouamé, c'est la petite surprise l'Ivoirien, avec Jovic et Nico Gonzalez devant.
Cordeleur, Aurélien.
Le style de Vincenzo Italiano, c'est pas possible. Hein. On est en finale de Coupe d'Europe, la veste sans manches, le polo. Non, soyons sérieux.
On préfère son jeu.
Hein, il est né en Allemagne. Il est né en Allemagne, il est italien, il a l'air un peu perdu. Ouais.
Naïef Aguerd, titulaire ce soir, hein, que Julien Stéphane a eu à Rennes, bien sûr. Très bon joueur.
Et très bonne personnalité, en plus.
En plus de ça,
un grand professionnel, quelqu'un de très humble. C'est un véritable bonheur pour un entraîneur d'avoir ce type de joueur dans un vestiaire.
Alors, vous pouvez réagir maintenant à ce que disait Walid tout à l'heure, justement, qui s'interrogeait sur votre capacité à faire évoluer votre équipe sur la durée, notamment.
Non, déjà, je remercie Walid pour sa question, parce qu'elle est très intéressante et très pertinente. Moi, pour revenir un petit peu sur mon parcours, au début de ma prise de fonction, j'avais une obsession en tête, c'était gagner de la légitimité et de la crédibilité dans ce métier-là, dans ce milieu-là, ce qui n'est pas facile. Tu peux être un bon formateur, mais être un bon entraîneur de haut niveau, c'est autre chose. Tu peux avoir une bonne image, mais ce qui te crédibilise et ce qui te légitime après, ce sont les résultats. Donc ça a été mon obsession dans un premier temps. C'est vrai qu'on peut, on peut, je pense qu'on doit s'adapter à son effectif quand on est entraîneur. On peut gagner des compétitions, je pense notamment à une Coupe de France en s'adaptant sur quelques matchs. Et j'ai pas de honte à dire que, par exemple, sur la finale de la Coupe de France contre Paris, on s'est beaucoup adapté à eux, dans le sens où il y avait une qualité individuelle en face qui était plus forte que la nôtre. Donc je pense que c'est une des qualités d'un entraîneur. Ensuite, je pense pas qu'on fasse un championnat quasiment complet, en tout cas 30 journées et finir troisième en étant que dans l'adaptation. Mais quand je disais tout à l'heure, des bons débuts, mais peut encore faire mieux, c'est peut-être aussi à ce niveau-là. Et la période que je vis en ce moment de 5 mois d'inactivité me permet aussi de réfléchir à bon nombre de choses, de regarder, d'observer. J'ai vu énormément de matchs. Ouais. J'ai analysé quelques entraîneurs en profondeur et quelques équipes en profondeur, parce que j'avais le temps de le faire. Ouais.
Lesquels par exemple?
J'ai beaucoup analysé le Brighton de De Zerbi cette année. J'ai vu tous leurs matchs.
C'est un bon choix.
Tous leurs matchs.
Bon choix.
Tous leurs matchs. Ouais. J'ai beaucoup regardé.
C'est validé. Le...
Qu'est-ce qui vous plaît chez De Zerbi dans ce qu'il fait là?
On
a la réponse, mais.
Non, mais ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que quand on regarde son équipe ou ses équipes, il y a un style qui est très affirmé. J'aime la prise de risque et j'aime le côté ce que ça génère après chez les joueurs ce type de football là en termes de plaisir en termes d'intensité aussi voilà je trouve que c'est très intéressant. Est-ce qu'on gagne des championnats avec ça? Est-ce qu'on gagne des trophées avec ça? Ça c'est une autre question. Par contre, je trouve qu'en termes d'émotion, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup regardé, beaucoup analysé le Lille de Paulo Fonseca aussi.
très bon choix aussi.
J'ai beaucoup aimé.
Et voilà. On se retrouve sur l'adaptation du latéral qui l'asymétrie, je veux dire, Diakité notamment. Et Brighton utilise aussi le latéral. Ils ont utilisé Caicedo à droite en latéral, puis en milieu de terrain.
Ils ont trois jeux de position, Brighton. Ouais. Trois jeux de position différents qui est adapté en fonction de l'organisation adverse et du positionnement des adversaires. Donc c'est hyper intéressant à regarder. Voilà, j'ai beaucoup regardé l'Arsenal d'Arteta aussi. Cette année, j'ai vu tous leurs matchs.
Bon, aussi. Là aussi, il y a de la symétrie.
Exactement. Et ce qu'il en ressort, c'est ce côté asymétrique. Voilà. Et cette création de supériorité numérique dans certains secteurs de jeu, et bien évidemment aussi tous les matchs de City avec Guardiola, parce que là on touche summum.
Quand vous dites à juste titre qu'il faut s'adapter à ces effectifs, est-ce que vous aussi à l'avenir vous n'allez pas être un peu plus exigeant envers vos directeurs sportifs ou pour apporter un style aussi de joueurs, pour avoir un peu plus ce matériel
des joueurs adaptés à votre style, quoi.
Exactement, non, par rapport à cette solution des blocs bas ou des équipes qui vont un peu plus vous attendre quand le style Stéphane, dans un premier temps, aura été, entre guillemets, lu. Parce que vous le disiez tout à l'heure, avec Igor Tudor, cette faculté à pouvoir s'adapter constamment. Donc, est-ce que c'est aussi une réflexion à avoir sur les prochaines années? Parce qu'on parle de Zerbi. De Zerbi arrive à Brighton, il n'a pas les meilleurs joueurs du monde. Il a pas les, mais en termes de style, de profil, on parle plus finalement de qualité aujourd'hui. On parle de profil, de joueurs polyvalents, de joueurs cérébraux qui ont cette capacité à pouvoir s'adapter, à comprendre ce que le coach demande aussi.
Ouais, des joueurs qui peuvent jouer différentes positions. Je pense que l'entraînement peut les amener à développer ça aussi. Après, c'est vrai qu'il a pas les meilleurs joueurs, mais il y en a des très très bons.
Oui, ah oui, bien sûr, bien évidemment, oui.
Il y en a qui sont pas très connus, mais des joueurs comme Mitoma,
Caicedo,
est plus connu. Enciso, c'est exceptionnel. Mitoma, Mitoma, c'est incroyable.
Ah oui.
Caicedo, c'est un joueur exceptionnel.
Paul Will derrière.
Il y a vraiment.
Mais à la base, ils sont pas très très connus, ces
joueurs. Exactement. Caicedo, c'est un sacré joueur. Et même quand il était en Argentine, je l'avais vu jouer à Boca Juniors. Il a fait une vingtaine de matchs là-bas. Il sortait déjà du lot par rapport aux autres. Je voudrais revenir sur vous. Il y a un point que vous soulevier qui est intéressant. Vous demandiez si avec le style de Zerbi on gagne des championnats, on gagne des trophées. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est de marquer la mémoire collective des supporters des clubs que vous allez entraîner en leur fournissant des émotions, du beau jeu, un style peut-être un petit peu fou mais qui va amener des matchs dingues dont les supporters vont se rappeler, ou de remplir l'armoire à trophées?
S'il y avait un choix à faire entre les deux, très sincèrement, gagner les trophées.
Bah oui.
Eh oui,
gagner les trophées.
En plus, c'est lié les deux.
On génère aussi beaucoup d'émotions, en effet, par des matchs qui peuvent marquer les gens, mais on génère encore plus d'émotions par des trophées et par des victoires. Ça, j'en suis absolument convaincu, absolument persuadé. Certains très grands entraîneurs arrivent à lier les deux, mais ce sont des très grands entraîneurs dans des très grands clubs avec d'énormes moyens aussi qui sont mis à disposition pour acheter les joueurs qui veulent. Et je pense qu'il y a 99% peut-être des entraîneurs qui doivent s'adapter à un effectif, s'adapter à une organisation de club différente. Il y a très peu d'entraîneurs qui ont la latitude d'avoir et le portefeuille et le pouvoir de décision sur les joueurs.
Julien Stéphane est avec nous dans Génération After. Je résume donc, vous ne travaillez plus dans un club depuis janvier dernier. Il y a 4 clubs aujourd'hui en Ligue 1 qui n'ont pas d'entraîneur sur leur banc.
Oui.
Nantes. Non, oui, non, intéressé, non.
Nantes, c'est un très bon club historique.
En tant que Rennais.
Mais j'ai aussi une histoire avec Rennes.
Voilà, vous savez. Nice, pourquoi pas? Beau projet.
C'est un très beau projet.
Il y a des moyens.
C'est un très beau projet.
Ouais, Côte d'Azur. Si on vous appelle demain, si Jean Guizafi vous appelle demain, vous le rencontrez avec intérêt.
S'il souhaite me rencontrer, ça sera avec grand plaisir.
Monaco.
Mais je n'ai pas eu de contact.
Monaco, vous l'avez dit, magnifique.
Oui.
Au-delà du climat et l'environnement.
C'est autre chose, c'est un environnement particulier au stade, mais c'est un club avec des moyens, avec un effectif de qualité, avec des ambitions. Donc, bien évidemment que c'est un club intéressant.
Le Paris Saint-Germain n'a pas d'entraîneur. Là, on nous dit, sur les studios, Lolo Gauthier nous dit, Julien Stéphane au PSG, s'il vous plaît.
Non, après, il faut aussi avoir de l'ambition, c'est une chose. Il faut aussi avoir l'humilité de connaître.
C'est intéressant de dire, on vous le conseille pas.
Sa conseillère BNP lui conseille. Moi,
ça ne se refuse pas le PSG, Julien Stéphane.
Mais aujourd'hui, très honnêtement, je ne me pose même pas la question. D'accord. Parce que je suis quelqu'un de très terre à terre et très lucide. Et je préfère m'orienter vers des choses qui peuvent se réaliser.
Et ça amène une question qui me semble. Vous disiez donc quand vous êtes nommé à Rennes, il y avait cette quête de légitimité parce que vous aviez passé plus d'une dizaine d'années en tant que formateur. Vous arrivez dans un vestiaire de Ligue 1, on connaît les égos qu'il peut avoir dans un vestiaire. Il faut asseoir son autorité, etc. Est-ce que vous voyez dans un vestiaire avec des stars où il faut appeler Neymar pour lui dire d'arrêter de jouer au poker jusqu'à 4h du matin ou
on va pas parler d'une chose qui n'arrivera
non,
jamais.
Non mais je te parle pas de Neymar.
Non mais c'est pas forcément Neymar. C'est pas le Neymar qui joue au poker aussi en Ligue 1.
La question que je vous posais, c'est est-ce que ça n'a pas été peut-être la chose la plus difficile à mettre en place quand vous avez pris ces bandes, vous avez pris ces vestiaires de Ligue 1, d'avoir de dire, moi j'ai peut-être été formateur pendant 10-12 ans, mais si je te dis que tu manges comme un sagouin et que tu te couches trop tard, va falloir arrêter. Ça n'a pas été quelque chose de dur pour vous ?
Gérer Ben Arfa, par exemple, ça a été simple ?
Ça a été très honnêtement, ça a été une grande chance pour moi de commencer ma carrière en gérant, mais pas que à Thème. Hein. Il y avait des joueurs de gros caractère. Il y avait Clément Grenier. Et j'ai eu des joueurs avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de qualité aussi. C'est une chance parce qu'on apprend sur le tas et on est mis en situation et n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Sinon, on explose. Voilà. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été évident. Il a fallu prendre parfois des positions très fortes et très marquées. Mais je pense aussi que c'est dans ces moments-là où on avance, où on apprend le plus. C'est aussi dans ces moments-là où on s'affirme.
J'ai l'impression que vous avez le faire très tôt, ça. Que vous avez su le faire très tôt, justement, asseoir votre autorité.
Je pense que c'était absolument nécessaire de le faire. Je me suis pas forcé, mais il a fallu le faire.
Pause dans un instant, on prolonge avec Julien Stéphan, on va parler de Lyon. On écoutera l'avis tranché de Wedel Jarchour.
Et j'aimerais poser la question aussi sur la progression du joueur.
On a encore 45 minutes ensemble avec Julien Stéphan. On va parler d'autres clubs aussi. On va parler de Lyon et de Laurent Blanc. Parce que tu voulais en parler également, Walid, ce soir dans Génération After.
Après, on peut en parler demain sinon.
Non, ce soir. T'as du mal à comprendre pourquoi Lyon maintient, en tout cas, John Textor maintient Laurent Blanc sur le banc de l'OL. Reste avec nous, Génération After, avec Julien Stéphan, Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et Jonathan Macardy sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour et Jonathan Macardy, RMC Génération After, 21h17. Et notre invité, Julien Stéphan, qui regarde le tennis comme nous, Roland Garros. Détour par la porte d'Auteuil, où nous attend Julien Taxis. Le quart de finale entre Rune et Rude, Julien.
Oui, il est rude pour Rune. Voilà, c'est fait. Cœur Rune au service mené 6-1, 3-1. Alors ça va un tout petit peu mieux depuis quelques jeux pour Holger Rune qui tente des choses, de créer, de varier parfois des services volés. Mais son début de match a été tellement catastrophique. Déjà 25 fautes directes, 7 doubles fautes pour le Danois qui essaye d'exister mais qui a du mal véritablement à faire dégoupiller le métronome qui est Casper Ruud. 6-1, 3-1 pour le Norvégien.
Attention Julien, parce que la Rune peut tourner.
Oui, pas ta meilleure. Pas mal, mais pas incroyable non plus, mon cher Walid.
D'accord, ok. Bon.
À tout à l'heure, mon cher Julien. La finale de Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et West Ham, Aurélien Tiercin.
Toujours 0-0 après 17 minutes et 40 secondes de jeu. Avantage West Ham quand même plus puissant, les Anglais. La frappe de Declan Rice notamment, c'est la plus grosse occasion à l'entrée de la surface de réparation. Ça vient lécher le poteau droit de Pietro Terracciano. D'ailleurs, West Ham qui n'a pas de sponsor sur son maillot, hein, c'est Betway, un site de paris en ligne. Ça, c'est interdit en République Tchèque. C'est pour ça qu'on a un sponsor, un maillot tout blanc avec une mauvaise flamme orange. D'ailleurs, il n'est pas terrible ce maillot, mais ce n'est pas le problème. 18 minutes de jeu, 0-0 entre la Fiorentina et West Ham.
Petit message de Malo sur Direct Studio. Julien, en tant que Rennais de 20 ans, supporter des Rouges et Noirs depuis toujours, mon idole n'est pas Dembélé, Jimmy Briand, Kamavinga ou Mvilla, mais toi, Julien. C'est vrai ce que je dis. Hein. Merci pour les émotions extraordinaires vécues. Je suis certain que ton chemin et celui du Stade Rennais se recroisera dans le futur. Ah, pourquoi pas un jour ?
Je sais pas, en tout cas, c'est pas d'actualité.
Pas d'actualité, en tout cas, voilà, c'est extrêmement clair. Lyon, on en parle avec Walid Acharchour.
Tout de suite.
Oui, tout de suite.
J'avais une petite question juste.
Non, après, on aura le temps. D'accord, on va revenir après. Okay, on a des questions encore à poser.
D'accord.
D'abord, on parle de Lyon avec toi. Ton avis, ce soir, Walid. John Textor, je rappelle, a confirmé encore une fois la présence de Laurent Blanc sur le banc de l'OL la saison prochaine. T'as du mal à comprendre ce choix. Jingle, Walid Acharchour.
Moi, quand je m'habille, quand je sortais, etc., je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures.
Ce qui est incroyable, c'est la fin des belles chaussures.
C'est vrai qu'il y a un ton bizarre, ouais.
Nous t'écoutons, mon cher.
Oui, non, je voulais parler, bien évidemment, de ce qui se passe à Lyon, parce qu'on n'en parle pas, beaucoup, de ce qui se passe pas à Lyon, finalement. Parce qu'on attendait un directeur sportif. Finalement, on nous explique que, Bruno Chéroux va encore travailler, chez la holding, Textor, où on n'a pas trop bien compris, qu'il y avait le recruteur, marseillais,
Mathieu
Louis-Jean, qui allait être débauché pour être dans la cellule de recrutement, pour être le chef du scout. que Laurent Blanc finalement va être reconduit. Au début, moi, je pensais que c'était une tournure de communication de la part de Textor, parce qu'il fallait impliquer Laurent Blanc sur la fin de saison, à 3-4 matchs de la fin de saison, surtout que Lyon pouvait encore jouer l'Europe. Mais bon, finalement, ça s'est confirmé. Et moi, je voulais en parler, en discuter avec les copains Nico, parce que moi, je ne comprends pas. Alors, bien évidemment que Laurent Blanc, pour beaucoup, a fait une deuxième partie de saison plutôt correcte en termes de résultats et en termes de points, même si je reviendrai là-dessus. Moi, je trouve que c'est assez surfait par rapport à ce qu'on en attendait, parce que Laurent Blanc est arrivé en novembre. Je parle sous ton contrôle.
Peux te donner 1,71 points de moyenne.
Voilà, moi j'en attendais quand même.
C'est pas un parcours d'Européen.
Ouais, j'en attendais quand même un peu mieux. Mais bon, pourquoi pas, les points ont été là. Il y a eu un léger mieux. Tout n'est pas à jeter, bien évidemment. Maintenant, moi je parle juste dans la constitution club. Je ne comprends pas comment, avec un nouveau cycle, avec un nouvel investisseur, avec voilà, tout ce qu'on a dit sur Textor, le départ de Jean-Michel Hollas, comment en fait, sur la direction sportive, que ce soit le directeur sportif et l'entraîneur, on est si peu de changements. Moi, je m'attendais à quelque chose de nouveau. Et moi, je reste sceptique, même si j'aime beaucoup Laurent Blanc et la carrière qu'il a eue, sur les capacités à enclencher quelque chose de frais, de nouveau, de moderne à l'Olympique Lyonnais. Moi, je trouve que ce qu'il a proposé dans le jeu sur les 6 premiers mois, malgré ses résultats, ça n'a pas été grandiose. Que son milieu à 3 restrictif, Thiago Mendes, Le Penant, Cacré, manquait d'idées, manquait de créativité, que le duo Barcola, Lacazette, qui pour moi a sauvé quand même pas mal de matchs de l'Olympique l'année où c'était infect. Hein. Je parle bien évidemment du Montpellier-Lyon où il y a 4-1 à la 60e minute. On a une fin de match un peu folle, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'à un moment donné, il y a 4-1 et que dans le jeu, c'est très très compliqué. Barcola, au passage, faut pas oublier que sur les 6 premiers mois, il ne veut pas en entendre parler, et que Toko Ekambi est mi-titulaire, et que par la force des choses, Barcola, à un moment donné, s'impose par rapport à ses minutes.
Il voulait le garder, Toko.
Moi, je trouve que je vais pas dire le je m'en foutisse, parce que c'est un mot très très dur, mais je trouve que dans la communication de Laurent Blanc, ce qu'il dégage, je suis pas sûr que pour un club de très très haut niveau comme Lyon, voilà, par exemple après le match contre Nantes, bon, tu perds une demi-finale, t'as l'impression qu'il a perdu un match amical.
Mais tu sais qu'il était comme ça à Bordeaux et à Paris.
Ah, je le ressentais pas de la même manière.
Il y avait une désinvolture peut-être. Ah,
je le ressentais pas du personnage. À Bordeaux, je me rappelle la saison notamment où il est champion, et même la saison d'après où il y a le drame, tu sais, avec l'équipe de France et ce qui laisse Marseille passer devant. Il avait cette communication où t'as l'impression qu'il en avait rien à cirer.
Bah moi, je le ressentais pas de la même manière. En tout cas, les résultats et le jeu étaient bien meilleurs que ce qu'on voit, à Lyon. Et juste pour terminer, je parlerai sous le contrôle de Julien, ce serait intéressant d'avoir son avis. Mais moi, pour moi, quand il y a un nouvel organigramme, même si pour l'instant ça s'est pas concrétisé, parce que moi mon avis je l'avais déjà depuis une semaine, et je pensais qu'il allait avoir un directeur sportif. Pour moi, un directeur sportif doit choisir son coach. Et quand on a un Laurent Blanc qui continuera de rester, et au premier problème, à la première incartade, le problème c'est que on sera toujours dans une histoire on n'a pas choisi le coach, on n'a pas fait les bons choix, et ça, moi, pour moi, ça me dérange. D'accord. Sur le futur,
sur ce sujet là on est obligé de parler d'oseille, parce qu'en fait, à mon avis, c'est grandement une question d'oseille. C'est particulier parce que on se retrouve sur un club qui est racheté plus de 800 millions d'euros, donc c'est une somme énorme, et donc on se dit le mec a de l'argent, mais on sait très bien aussi le montage financier qui a été fait pour acheter le club, et surtout tu te retrouves dans une situation où tu achètes un club qui est très bien valorisé, mais au final où tu te retrouves dans une situation où tu auras très peu d'oseille pour enclencher les premiers changements. Hollas avait prévu d'ailleurs 70 millions d'euros de vente, c'est ce qu'il avait dit à la DNCG, donc c'est pour te placer un petit peu le niveau de crise financière qu'il y a dans ce club. Il y a aussi la question de Textor, est-ce qu'il a la possibilité, lui, de rajouter encore plus après son rachat? C'est une question importante. La question de Textor et d'Hollas, il a quand même déboursé 10 millions d'euros pour le sauter du club, donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans cette histoire-là. Et moi, je te dis, s'il ne nomme pas de directeur sportif, c'est pour s'éviter justement qu'il lui impose un changement de coach et des indemnités supplémentaires. C'est terrible à dire aujourd'hui, mais je crois que j'avais déjà des doutes au moment du rachat, moi, évidemment. Mais là, je pense qu'on est dans une situation où on va faire une forme de statu quo.
C'est problématique.
C'est parce qu'on nous a vendu.
Quand tu parles de statu quo, oui. Je pense qu'il y a ça me fait penser à une chose sur Laurent Blanc, et c'est, ça fait un peu le lien sur ce qu'on disait sur Longoria, là, oui, qu'on partageait toi et moi, oui, et sur ce que le sujet qu'on va aborder sur la nouvelle génération de coachs. Je trouve que le problème, c'est que le problème fondamental de Laurent Blanc, c'est que son jeu et son style de jeu, il est daté, il est ringard. Ce qu'il faisait au Girondins de Bordeaux, ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain, qui certes avait une identité ultra marquée.
Mais même là, je le vois pas, moi.
Un jeu de possession, ça ne fonctionne plus. Et quand je parle de Longoria, c'est parce que Longoria explique que maintenant, le football, quand t'as pas les moyens des très grands clubs comme PSG ou Manchester City, il faut jouer le jeu transition hyper rapide, etc. Je ne pense pas que Laurent Blanc soit capable de le faire.
Juste un dernier truc, Nico, parce que c'est important au niveau financier. C'est que, en fait, peut-être que les supporters lyonnais se sont laissés berner un moment quand il a décidé de virer Jean-Michel Aulas. La question, c'était de savoir, il vire Jean-Michel Aulas pour pouvoir commencer à implanter sa propre direction sportive. Et donc, c'était ça dans l'esprit des gens. La réalité, c'est que le fait de virer Aulas, c'était surtout sur la question de la section féminine où ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient vendre Textor pour récupérer du cash. D'ailleurs, ils ont récupéré environ 50 millions d'euros en revendant la section féminine. Mais je pense que le problème entre les deux vient de là. Mmh. Et non pas d'une volonté d'impulser quelque chose sportivement tout de suite. C'est très inquiétant.
On est retenu à Julien Stéphane avec Laurent Blanc. J'ai entendu ringard, style de jeu dépassé. Has-been aussi.
Non, je trouve que c'était bien évidemment très très sévère. Je pense qu'il faut, dans l'analyse, rappeler certains faits. Il a repris une équipe en cours de route, déjà. Ça, c'est la première chose. Une équipe qui était, je crois, en milieu de tableau, assez loin déjà des possibilités de finir européen. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont joué dans cette équipe sur la deuxième partie de saison. Je pense à Koumbédi derrière, je pense à Diomandé qui s'est installé en charnière centrale, je pense à, bien évidemment, à Barcola, je pense à Cherki aussi qui a joué énormément. Quatre joueurs entre 17, 18 et 20, 21 ans.
Loukeba aussi, il a
20 ans. Et Loukeba aussi, 20 ans. Déjà, c'est sa deuxième année, mais ça faisait la moitié des joueurs de champ qui avaient entre 18 et 20 ou 21 ans. Alors, ils n'ont peut-être pas fait que des très bons matchs, peut-être, mais je trouve qu'en termes de résultats, parfois sur des morceaux de matchs, j'ai trouvé ça intéressant. Je les avais notamment vus contre Rennes, ils avaient fait une très bonne deuxième mi-temps contre Rennes. C'est vrai que le match de Montpellier, c'est un match très très particulier. Il y a des matchs où ils ont fait des choses très intéressantes. Il y a des joueurs de talent, mais il y a aussi de la jeunesse. Il y a Le Penant aussi qui a beaucoup joué. Ça, ce sont des très très jeunes joueurs. Il y a plus beaucoup de joueurs expérimentés, Sidney Lacazette, Lovren, Tolisso, qui a aussi eu quelques blessures. Et ça conditionne quand même, beaucoup de choses dans les résultats et surtout dans la continuité, dans la performance.
Alors, on fait une pause, on prolonge sur Lyon dans un instant. On sera avec Aurélien, supporter de l'OL au 32-16. Restez avec nous, c'est Génération After sur RMC avec Walid, Sofiane et Jonathan et Julien Stéphan, notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Jonathan Marcardi, Sofiane Zouaoui, RMC 21h31 et notre invité Julien Stéphan qui nous accompagne jusqu'à 22h. On parle de Lyon bien sûr et je vais accueillir Aurélien au 32-16. Salut Aurélien.
Salut les gars, vous allez bien?
Salut. Bien et toi?
Salut Aurélien.
De Walid qui a du mal à comprendre la pertinence de conserver Laurent Blanc sur le banc à Lyon. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des principes auxquels je suis d'accord. C'est sur la gestion, sur le temps à venir, notamment par Textor, parce qu'en soi, en France, on le connaît pas. Mais moi, je suis pas d'accord sur l'aspect sportif, dans le sens où depuis le début, par exemple, on parlait de Marseille, où les entraîneurs s'enchaînent tous les ans. Et là, pour une fois, on a une opportunité de laisser du temps à l'entraîneur, parce que c'est ça qu'on a comme problème en France, c'est qu'on laisse pas le temps. Pour moi, il faut lui laisser du temps. C'est une opportunité. Laurent Blanc, il connaît le championnat de Ligue 1, pas Textor, donc ça peut être aussi une transition entre les deux. Il sait gérer des jeunes, il sait quand même gérer des joueurs comme Lacazette ou Corentin Tolisso ou autre. Pour moi, il faut le laisser.
Non mais...
si on lui laisse pas le temps de gérer, de faire sa manière, parce que quand il est arrivé en novembre, il a fait ce qu'il avait. Donc là, depuis on est début juin, le mercato commence. On lui laisse 2 mois pour travailler, pour faire venir les joueurs qu'il veut, en fonction des moyens qu'il aura, bien sûr. Et on va laisser travailler, on va le voir après sur le sportif, on aura forcément une différence.
Non mais Aurélien, juste moi pour remettre dans le contexte mon avis, déjà, il n'y a pas que Laurent Blanc, moi j'ai pas de problème avec Laurent Blanc à la base, c'est vraiment la structure Lyon, et ce que veut donner Lyon dans ce nouveau virage où on nous a quand même expliqué, ou en tout cas vendu, un vrai renouveau. Et moi, je trouve que au-delà de Laurent Blanc, même ce qui se passe autour de la direction sportive, moi, me dérange. Pour moi, il me fallait vraiment une vraie cassure. Et Laurent Blanc, il a fait son boulot à la limite, même si moi, je pense qu'il a pas cassé la baraque sur les six derniers mois. Il a fait un travail correct. Il y a des plus, il y a des moins. Oui, l'avènement de Cherki et comment dirais-je son mode de management, j'aime bien.
Révélation Barcola.
J'apprécie Barcola. Ça, encore une fois, je fais un pas de côté. Et Nico, je le répète, Barcola, à la base, il est pas ultra fan de Barcola. Barcola s'impose de lui-même.
Un peu contre les forcés.
Et je pense que même ma maman, avec les matchs de Barcola à Lyon, elle aurait donné des minutes à Barcola.
La même chose. C'est même... plus complexe que ça quand même.
Je suis désolé, mais moi.
Stéphane qui sourit quand il.
Non, c'est
plus complexe, sûrement.
Barcola, je sais pas, je parle sous contrôle de Sofiane, il est pas à la base adoré par Laurent Blanc. Laurent Blanc, il a quand même un discours sur les jeunes quand il arrive. Il dit moi, les jeunes, moi, je veux une équipe compétitive, je veux des cadres, je veux prendre Lovren. Les jeunes, c'est quand tu vois la gestion de Momo et Larouche, qui est l'un des meilleurs joueurs du centre de formation, où il lui donne pas beaucoup de minutes, où il fait très très peu de groupes.
Excusez-moi, Jonathan, petit événement sur la finale de Ligue Europa Conférence. Un joueur, c'est Béraghi, un Florentin qui est blessé. Aurélien, raconte-nous ce qui s'est passé là.
Ouais, la 33e, 0-0. Alors, il y a beaucoup de tensions sportives sur le terrain, hein. Pas beaucoup d'occasions. Et il y a de la tension, malheureusement, dans les tribunes avec des idiots, supporters de West Ham qui lancent des gobelets en plastique sur les joueurs depuis plusieurs dizaines de minutes. Il y a même Nico González, l'Argentin, qui, pour rire, entre guillemets, en a pris un et a fait semblant de boire dedans en applaudissant de manière ironique. Et là, le Cristiano Biraghi, le capitaine de Florence, avant de tirer un corner, s'en est pris un sur le derrière du crâne. Alors c'est un verre vide, c'est pas dramatique non plus, mais il saigne et ça empêche le match de se jouer. Donc en première ligue, il y a moins de problèmes parce que les places coûtent très cher, mais les supporters anglais font les mêmes bêtises, malheureusement, que de mauvais supporters français.
Les supporters d'West Ham, c'est pas des rigolos.
Ils sont chauds. Ouais, il y a eu déjà du grabuge dans la ville de Prague. Hein, c'est là où il y a eu la finale aujourd'hui.
Et c'est pas moins grave que ce qui s'est passé à Bordeaux vendredi soir. D'ailleurs, on a arrêté le match. On n'est pas allé au bout de Bordeaux-Rodez. Ce soir, ce qui se passe, c'est dramatique sur la pelouse.
Il y a un bâton rouge là qu'il a ramassé par terre, l'arbitre.
Même des verres en plastique. Il y en a des dizaines et des dizaines qui sont tombés sur le poteau de corner, dont un donc sur le crâne qui saigne de Cristiano Biraghi. Il est en train de recevoir les premiers soins, mettre un pansement à l'arrière de sa tête. La 35e minute, 0-0 à l'Eden Arena de Prague. Il y a pas beaucoup d'occasions, c'est vraiment tendu parce que c'est aussi un match qui peut qualifier l'une ou l'autre des équipes en Coupe d'Europe, en Ligue Europa la saison prochaine. Les deux ont raté le ticket européen via le championnat. Okay. Donc voilà, 0-0, 35e minute de jeu, ça devrait reprendre avec un gros bandeau violet sur la tête de Cristiano Biraghi, le capitaine de la Fiorentina.
La balle de 7 à Roland Garros pour Casper Ruud, Julien Taxis.
Oui, on est en plein échange avec un Casper Ruud en contrôle sur la ligne de fond de court et une nouvelle faute directe d'un Holger Rune qui explose 6-1, 6-2 en 1h03 minutes de jeu. Le TGV Casper Ruud bien lancé vers la demi-finale.
Il y a 3 mois, il avait quasiment disparu, Casper Ruud, il s'est totalement relancé. Un mot sur cette image, Julien Stéphane, évidemment, vous qui avez entraîné post-Covid, est-ce que des sentiments qu'il y a une tension nouvelle, plus intense en tribune, que ce soit chez nous d'ailleurs ou à l'étranger. Non, vous n'avez pas constaté.
J'ai pas constaté forcément ça. Après c'est les événements là des derniers jours qui peut-être nous amènent à mettre ça en lumière. Et oui, je partage. C'est aussi grave que ce qui s'est passé à Bordeaux.
Mais ils ont de la chance que Biraghi continue. Hein, moi, je te le dis. Hein. Oui. Parce que là, il a accepté de prendre un gobelet, de se faire ouvrir la tête. Mais
il va tirer le corner.
S'il tombe par terre, l'arbitre arrête le match. Hein, et on ne sait pas ce que ça peut donner. Ils sont bien gentils. Hein.
Allez, on conclut sur Lyon avec quoi.
Juste pour conclure et sur la fameuse stabilité que doit avoir Lyon et que doit avoir les clubs. Moi, bien évidemment, que je préconise la stabilité. Mais le signal que tu envoies après cette saison ratée, même si tout n'est pas de la faute de Laurent Blanc. Moi, je suis d'accord avec Julien. Bien évidemment, il peut avoir des circonstances atténuantes, mais Monaco, saison ratée, Clément saute. Nice, saison ratée, Didier Digard saute. Tu peux prendre d'autres clubs.
Cambouaré n'est plus là, voilà. Aussi à Nantes. Ouais.
Et Lyon, il termine combien? 7e, 8e? 7e.
7e de Ligue 1.
Je suis désolé, à un moment donné, il y a quand même il y a des décisions à prendre. Si les décisions de John Textor, et c'est pour ça que là, moi, j'écarte Laurent Blanc, c'est de ne rien changer ou presque.
Bien à souligner, je pense, le nerf de la guerre.
Et même l'aspect financier, on s'est fait, je suis désolé, moi, c'est pas ce qu'on m'avait vendu, entre guillemets. Bah ouais, j'ai essayé d'y croire, moi.
On l'a dit plein de fois.
Je suis peut-être naïf, mais.
Ça puait dès le début. Rappelle-toi, sur la manière dont la vente s'est faite, ça a tardé à se concrétiser.
On a la confirmation, en tout cas.
Et maintenant, la vraie question à se poser, c'est quel est vraiment le projet lyonnais? Quels vont être les objectifs pour la saison qui arrive? Parce que là, encore une fois, c'est une nouvelle catastrophe industrielle pour ce club qui est coté en bourse, etc., de finir encore en dehors des places européennes. Là, je me demande quelle va être l'ambition sur le marché des transferts.
On n'a
pas encore eu d'avis sur le montant de l'enveloppe. Il y a beaucoup de questions.
On verra ça.
Il y a beaucoup de questions et beaucoup de doutes et beaucoup d'inquiétudes.
On verra un passage également de la DNCG à la fin du mois de juin pour John Textor et l'Olympique Lyonnais. Merci Aurélien d'avoir fait le 32-16.
Salut Aurélien.
Salut Aurélien. D'un entraîneur qu'on peut qualifier d'ancienne génération, Laurent Blanc, et puis sur la fin de sa carrière d'entraîneur que sur le début, vous incarnez, Walid l'a très bien dit tout à l'heure, vous êtes un étendard de la nouvelle génération d'entraîneurs en France.
Ah non, il y en a un nouveau maintenant. C'est Brice. Eh oui.
Mais que connaît très bien Julien d'ailleurs. Que Julien a connu à Rennes.
Le nombre de mecs qui sont sortis à Rennes quand même.
Meilleur centre de formation.
La Bretagne surtout.
Pas de hasard. Quand t'as meilleur centre de formation, c'est que t'as les meilleurs formateurs également. Franck Haise aussi, que vous avez croisé, à Rennes. Hein. Il part en 2012, vous arrivez en 2012.
Ouais, c'est ça, Franck, entraînait les 17 ans à Rennes, quand moi j'entraînais les 17 ans à Lorient, donc on s'est connus à ce moment-là, on s'affrontait. Et on s'est découvert.
Il y avait déjà des principes à l'époque chez Franck Haise.
Ouais. Alors une structure complètement différente de jeu. Ensuite, c'est pas le même travail à la formation et chez les pros. Il y a une méthodologie qui est complètement différente, mais je suis vraiment très content de pour lui de ce qu'il fait et c'est amplement mérité.
C'est comme vous, hein. Il arrive, ça doit être qu'en intérim, mais puis au final, ça fonctionne.
Il fait deux matchs au départ et puis il y a l'arrêt des compétitions, il monte en Ligue 1 et puis voilà, l'histoire se met comme ça. C'est une forme de destin, mais c'est un destin mérité.
Comment vous pourriez nous décrire ce qualificatif entraîneur de nouvelle génération? Nous, on dit ici plus porté vers l'avant, une envie de se créer un maximum d'occasions aussi.
Plus intellectuel.
Plus réfléchi aussi, plus structuré dans l'approche du jeu.
Connecté.
Est-ce que c'est le cas? C'est comme ça qu'on peut le qualifier ou pas?
Je pense qu'il faut faire attention avec les termes. Nouvelle génération, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle génération?
Déjà plus jeune.
C'est plus jeune, d'accord, plus jeune. Mais plus jeune, c'est moins expérimenté que les anciens.
Ou moins usé.
Aussi, mais c'est moins c'est un métier où l'expérience est très très importante. Je crois aussi que on profite aujourd'hui, nous, les plus jeunes entraîneurs, de staff beaucoup plus développés, de compétences beaucoup plus importantes autour de nous également. On a maintenant des responsables de la performance, on a des nutritionnistes, on a des data scientists, on a des staffs qui sont plus larges également autour de nous, deux adjoints, enfin voilà. Y a
analyse vidéo.
Il y a analyse vidéo également, bien évidemment, et parfois pas qu'un seul. Donc il y a les datas qui sont aujourd'hui bien présentes dans tous les clubs, ce qui n'existait pas avant. Donc je pense que c'est une méthodologie de travail qui est différente, une approche qui est différente et une attente du coup de la part d'une direction aussi qui est différente. Voilà, alors la nouvelle génération, elle baigne là-dedans, la nouvelle génération d'entraîneurs, elle a peut-être aussi été un petit peu éduquée par rapport à ça. Là où les entraîneurs, il y a 20 ans ou 25 ans, faisaient beaucoup de choses tout seuls et ont été habitués à travailler beaucoup tout seuls.
Je suis bien d'accord, mais on a le sentiment chez cette jeune génération, Franck Haise, Régis Le Bris ou vous-même, qu'il y a des velléités beaucoup plus offensives que celles qu'on a vu observer pendant des années en Ligue 1. Pour vous, c'est un peu court, ça, comme qualification?
Je trouve surtout que c'est réducteur par rapport à des entraîneurs qui ont 15, 20 ou 25 ans d'expérience. Je crois que tous les entraîneurs ont envie de marquer des buts, ont envie de gagner des matchs, tous. Ensuite, on est aussi tributaire de l'effectif, on est tributaire de l'endroit où on est tributaire d'un contexte. Mais je peux pas croire qu'un entraîneur commence un match ou une saison en disant à ses joueurs.
Longtemps, on a tenu le discours, ne pas prendre plus de buts que l'autre, assurer un point.
C'est un gâté qui disait, on va se satisfaire du point qui nous est accordé au coup d'envoi.
Tout à fait.
Après, il y a aussi beaucoup de communication.
Entendu, avec René Girard, notamment.
Il y a eu beaucoup de.
Fred Antonetti qui a fait du bon boulot à Strasbourg là, mais également.
Au-delà de ce qu'ils font sur le terrain, moi, je trouve que la nouvelle génération s'ouvre beaucoup plus. Et déjà, vous voir ce soir discuter avec nous.
C'est vrai.
On a une communication, même si on sait que c'est très très important aussi pour l'image dégagée, mais quand on voit Will Steele, quand on entend Will Steele parler en conférence de presse, Régis Le Bris, qui, moi, pour être honnête, je suis pas le plus grand fan de Régis Le Bris cette saison. Je trouve qu'il a fait du très bon boulot pendant deux mois, mais c'est pas, je préfère d'autres styles de jeu, mais Régis Le Bris dans sa communication c'est parfait. Il nous éveille tactiquement, il va vers le football moderne.
Un peu, là.
Moi je trouve que dans cette nouvelle génération, dans la communication, dans le fait de parler de foot en conférence de presse, d'essayer d'enrichir un petit peu le débat foot en France, je trouve qu'il y a quand même une véritable avancée. Moi,
Oui, je comprends ça, mais est-ce qu'on voyait les confs de presse il y a 20 ou 25 ans? Est-ce qu'on y avait accès comme on y a
sans aller jusque-là, il y a 10 ans, on les voyait déjà, les confs de presse.
Le temps du discours a changé. C'est alors possible. Auparavant, on parlait surtout de ce qu'on a, la tribu masculine qu'on a entre les jambes en disant c'est ça qui compte, c'est le caractère, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'entraîneurs qui sont prompts à parler de jeu, à expliquer quelles sont leurs idées et à développer surtout quelles sont leurs méthodes de travail.
Non, il est sûr que la communication pour les entraîneurs d'aujourd'hui, c'est fondamental. Expliquer ce qu'on fait, dire ce qu'on a envie de faire, je pense que oui, je pense que c'est une donnée importante du métier.
Allez, pause. Et on finit avec vous, Julien Stéphan, Génération After. On a pas mal de questions pêle-mêle qu'on va lui poser. Notamment, on peut parler de Camavinga, par exemple. On peut parler de Christophe Galtier au PSG, que vous connaissez et que vous appréciez aussi également.
La progression des joueurs, j'aimerais.
La progression des joueurs aussi. Un maximum de questions qu'on va vous poser avant d'accueillir Gilbert, Daniel et Thibaut pour l'After, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. Les directs. La finale de Ligue Europa Conférence. Aurélien Tiercin, Fiorentina, West Ham.
43 minutes de jeu, 0-0. C'est un match hyper fermé. Mais là, il y a un coup franc intéressant pour West Ham. 25, 30 mètres décalé sur le côté gauche, le centre des Mersin au deuxième poteau dégagé de la tête par la défense de la Fiorentina, 0-0, la 43e.
Et le 7-0 pour Rude face à Rune à Roland Garros en quart de finale. A tout de suite pour Génération After sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, Jonathan Macardy et Sofiane Zouaoui, on est ensemble jusqu'à 22h. Gilbert, Daniel et Thibaut arrivent pour l'after jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Les directs, on est en finale de Ligue Europa Conférence. Aurélien Tiercin.
Eh ben, c'est pas beaucoup plus excitant que la finale de Ligue Europa. C'est vraiment pas terrible. C'est un combat physique 0-0. Après 48 minutes, on est dans la 4e minute de temps additionnel. Il y a une demi-volée de Declan Rice à la 20e, à peu près, une tête de Milenkovic côté Fiorentina. À part ça, il n'y a pas grand chose, un corner à venir là de la droite vers la gauche en faveur de la Viola pour la Fiorentina. 0-0, c'est tiré en deux temps par Biragi, le centre d'Amrabat et voilà, dégagé par la défense de West Ham. C'est pas terrible, 0-0.
C'est officiel pour Lionel Messi, hein, qu'il a annoncé lui-même à nos confrères espagnols. Il rejoint l'Inter Miami et pas l'Arabie Saoudite. Léo Messi, pour des raisons personnelles, hein, sa femme, lui-même, sa famille au sens large, ne se voyait pas vivre en Arabie Saoudite.
C'était mieux les États-Unis. C'est mieux les États-Unis par rapport à l'Arabie Saoudite.
Très bonne question. Pense, partons pas sur un débat géopolitique.
Géopolitiquement, on pourrait dire beaucoup de choses aussi.
Pour moi, c'est mieux.
Voilà.
Mais le Barça, qui avait fait des plans de financement et tout.
Tout à fait.
C'est bizarre un peu.
T'as raté. Julien Stéphan est avec nous, on a plusieurs questions à vous poser. Tiens, je vais commencer, puis chacun posera sa question un peu croustillante, ou vous y allez. Avons-nous été trop durs, nous journalistes, observateurs, supporters, avec Christophe Galtier, saison PSG, bien sûr. Je rappelle que vous avez un lien avec Christophe Galtier aussi, vous avez parlé avec lui à une époque.
Oui, oui, enfin un lien comme on peut se
Vous avez échangé des conseils, notamment. Ouais.
D'abord, il faut rappeler qu'il est champion de France. D'abord, il faut
rappeler. Moindre mal, non ?
C'est pas toujours été le cas.
Ouais,
tout le monde.
C'est vrai.
Faut rappeler ça. Il faut pas occulter la qualité de la première partie de saison. Très honnêtement, les 4 premiers mois, c'était très bon. Après, il y a eu un vrai changement avec la coupure. Est-ce qu'on a été trop dur ? Je pense qu'on est trop dur avec les entraîneurs du PSG depuis 5-6 ans maintenant.
Trop dur ?
Oui, je pense. Ouais. Ouais.
Pour quelle raison ?
On a été trop dur. On a été dur avec Ancelotti, on a été dur avec Tuchel. On a été dur avec un certain nombre d'entraîneurs qui ont réussi ailleurs et plus que réussi ailleurs à très 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 haut niveau. Voilà. Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'entraîner le PSG.
Est-ce que le PSG est un club qui est entraînable ?
Oui, tous les clubs sont entraînables. Mais c'est très très difficile et c'est peut-être l'un des clubs les plus difficiles au monde.
Walid,
Je vais pas rebondir sur
question. Vas-y.
Sur Julien, je suis pas totalement d'accord, mais moi j'aimerais revenir sur la question de la progression de vos joueurs. Tout à l'heure, Joe parlait des trophées, des émotions qu'on pouvait transmettre à ses supporters en termes d'héritage dans un passage club. Moi, j'aimerais vous parler de cette capacité à pouvoir faire progresser ses joueurs. Est-ce que, en termes d'héritage, pour vous, en tant qu'entraîneur, c'est très très important? Moi, en tout cas, pour un entraîneur, je m'y attache beaucoup. Quand je pense à comment Rami Bensebaïni, sous vos ordres, s'est révélé, je pense à Bourigeaud, notamment Ismail Assar, même si derrière c'était un peu moins bien.
Camavinga aussi.
Camavinga. Est-ce que les trophées, etc., bien évidemment, c'est important. Mais est-ce que aussi le fait de faire progresser ses joueurs, c'est quelque chose qui est très important?
C'est la base du métier. C'est la base de notre métier. Et ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on peut faire progresser un joueur à 18 ans, mais on peut aussi faire progresser un joueur à 34 ou 35 ans.
Benjamin André notamment.
Le dernier exemple que j'ai moi en tête, à qui j'avais noué une relation très particulière aussi à Strasbourg, c'est Dimitri Liénard, qui a même changé de poste l'année dernière, qui était un milieu de terrain, qui jouait dans le couloir, qui a fait une saison exceptionnelle, qui ne croyait pas être capable de faire ce qu'il a fait. Et c'est génial d'avoir des joueurs qui sont capables de se révéler dans des postes différents de leur poste de formation, ou même d'aller les amener à explorer des pistes qu'ils ne pensaient pas pouvoir explorer. Donc c'est fantastique. Bien sûr que l'évolution d'un joueur, ça fait partie intégrante de notre métier. Sa progression, ça doit être observé en permanence chez un entraîneur et plus globalement dans un travail de staff, parce qu'il ne faut pas réduire la progression du joueur à la qualité du travail qui est fait par l'entraîneur, mais par la qualité du travail qui est fait par le staff dans son ensemble.
C'est quoi la plus grande progression pour vous d'un joueur sous vos ordres? Celle qui a été la plus éclatante, ou même au début vous y croyez pas et vous.
Sebaini, c'est pas mal quand même, non?
Oui, Sebaini qui va signer à Dortmund aujourd'hui.
Ouais, Rami, ça a duré, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, ça a duré 8 mois, puis après il est parti en Allemagne. La meilleure progression. Il y en a un qui a beaucoup progressé. Moi, j'ai trouvé la progression de Bellegarde très intéressante.
Un bon joueur, Bellegarde.
C'est un vrai joueur qui a beaucoup de potentiel et qui n'a pas fini encore de l'explorer.
Question de Sofiane.
Ouais, parce que Walid a un petit peu parlé déjà de Kamavinga, il a lancé le sujet, et puis vous avez parlé, coach, du changement de poste. Donc, je vais aller sur Kamavinga, du coup, à ce niveau-là. On l'a vu en latéral gauche cette saison avec le Real Madrid, on l'a vu avec l'équipe de France aussi latéral gauche. Moi, j'avoue, quand Deschamps le fait, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Finalement, ça s'est confirmé avec Ancelotti, qui était aussi très bon à ce poste. Vous l'avez eu en jeune, est-ce qu'il faisait déjà ça? Et est-ce que ça vous surprend de le voir performer? Alors au milieu non peut-être, mais en latéral gauche aussi, même s'il aime moins ça.
Alors d'abord, nous on l'avait mis sur deux matchs de réserve à Rennes, on l'avait mis latéral gauche. Mais moi je suis très partisan dans la formation de permettre aux joueurs d'explorer différents postes.
La polyvalence.
À tous âges. Ouais, à tous âges. Entre 14, 15 et 19, 18, 19, 20, jusqu'à la fin de la formation, je suis très, très.
Après, ça doit s'arrêter.
Les partisans. Non. Après, ça peut se poursuivre. Mais dans le processus de formation, je suis partisan de permettre aux joueurs d'explorer différentes choses et de le mettre dans des positions même difficiles où il est obligé de trouver certaines réponses.
Et pour comprendre aussi le rôle de ses coéquipiers sur un terrain, j'imagine.
Également, aussi. Ensuite, pour être très honnête, est-ce que j'aurais imaginé un niveau de performance comme ça d'Eduardo cette année à ce poste-là? Non. Dans la durée, non. Pour être très, très honnête. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Un gamin de 20 ans, il faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. À 20 ans, être capable de s'adapter comme ça, de faire des performances de très, très haut niveau dans des compétitions de très haut niveau, c'est exceptionnel. Je pense malgré tout que son poste de prédilection et le poste dans lequel il s'exprimera le mieux, ça sera le poste de milieu de terrain axial.
Mais milieu de terrain axial, dans quel registre? 6, 8,
6.
Devant la défense, dans un milieu à 3.
Dans un double pivot.
Première relance?
Les deux. Les deux, il est tellement capable de traverser. Lui, ce qu'il préfère, ce serait dans un milieu à 3, point de basse. Pour se retrouver.
C'est exactement le genre de.
Ouais. Okay.
Il manque pas un petit peu d'agressivité défensive?
Il est très tonique dans l'agressivité.
Parce que moi, je me pose la question sur Kamavinga. 6-8, c'est intéressant d'avoir la vie de
l'homme qui vous a rendu hommage quand vous êtes parti de Rennes. Hein, vous avez dit, coach, grâce à vous, j'ai découvert le monde adulte de la N3 à la Ligue 1 en passant par Ligue des Champions. Je vous dois beaucoup. C'est ce qu'a dit Eduardo Kamavinga. C'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous dans Génération Affaires.
Merci beaucoup.
Merci.
Si dans 6 mois, vous n'avez pas de travail, revenez.
Vraiment, c'était hyper intéressant.
Et même si vous avez du travail, revenez également.
Avec plaisir.
Car on aime votre ouverture comme celle de Francaise, notamment Régis Lebris. Pouvoir raconter le football, l'échanger au plus près avec.
Je pense que les gens vont se régaler.
Merci beaucoup, Walid. Merci, Jonathan. Nico. Émission à retrouver en podcast, bien sûr, sur nos plateformes de téléchargement et pas uniquement sur rmc.fr. L'after arrive, Thibaut Leplat, Daniel Riolo et Gilbert Bribois à manette. Bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.